un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21 ans.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ces moments de présent.
Que c'est en faisant qu'on devient faisant.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
À la fin des spectacles humoristiques, dans ce qu'on appelle les petites salles, souvent, l'artiste revient sur scène en profitant d'une certaine accalmie des applaudissements pour demander au public d'en parler autour de lui. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos ennemis. Eh bien, vous profitez de cet exercice presque imposé, Océane Rosemary, pour poursuivre votre spectacle Chaton Violent et boucler la boucle en adressant à votre public cette dernière pique. Surtout, faites attention à qui vous en parlez. On est d'accord que ceci est un spectacle communautaire, l'objectif étant que nous restions bien entre nous. En effet, si tout le spectacle à l'affiche depuis plusieurs années évoque plusieurs formes d'entre-soi, de racisme, de fausse ouverture d'esprit et une catégorie de personnes que vous appelez les bons blancs bobos, vous décidez de ne pas épargner ceux qui vous écoutent et vous-même. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Chaton Violent se joue encore au Théâtre des Béliers tous les dimanches jusqu'au 22 avril à Paris, puis vous serez au Festival d'Avignon dans le Off du 6 au 20 juillet et aussi courant au mois de mai et à l'automne, Ivry, le Crémin Bicêtre, Saint-Barthélemy d'Anjou, Guise, Firminy et Saint-Genis. Pouilly, le spectacle commence encore comme ça.
Je voulais revenir ici rue de Solferino après 5 ans passés à l'Élysée. Diriger la France, c'est aussi prendre conscience qu'elle a des devoirs et des droits, mais aussi des responsabilités partout dans le monde. C'est agir pour le développement, c'est agir pour l'Afrique, c'est agir pour la planète, pour le climat, et c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans. Nous, la France, nous avons fait en sorte que l'Europe fasse, y compris à la crise des réfugiés, puisse être à la hauteur de ce que nous considérons comme un droit imprescriptible, qui est le droit d'asile. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, et j'en suis fier, pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro. Et chaque fois que je rencontre un dirigeant grec, même un citoyen grec, il me dit merci, il ne me dit pas merci à moi, mais il dit merci à vous, merci à la France. C'est ce gouvernement, ces gouvernements, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, puis ensuite Bernard Cazeneuve, qui ont fait que nous puissions élargir encore l'accès à la santé, la complémentaire, le tiers payant. Vais-je vous accabler de tout ce que nous avons fait? Ça prendrait des heures. Je ne dis pas 5 ans, mais presque 5 ans. Mais permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé.
Océane Rosemary, c'est donc ainsi que commence votre spectacle, ouais. Chaton Violent. Est-ce que ça vous démange de prendre la pause lorsque vous l'entendez? Parce qu'il faut vous décrire sur scène au début du spectacle, lorsque retentit dans la salle ce discours du 14 mai 2017.
Bah, disons que non, moi je suis juste assis sur une chaise et comme si j'étais devant ma télé un peu et que je regardais ce discours.
Mais progressivement, et... il rentre en vous le discours.
Ouais, absolument. Et puis, je suis emportée, quoi. Je suis tellement emportée par ce qu'ils disent. Moi j'adore ce discours. Après, bon, je l'ai monté, hein, mais il y a des trucs, c'est des perles, quoi. Du coup, je pars à fond avec lui dans son délire et puis c'est un peu comme si je me mettais un peu à être lui, quoi, à l'imiter et tout ça. Et comme j'ai l'impression que lui, il se fait un gros délire. Tout ce qu'il dit, ouais, sur la Grèce, sur les réfugiés, vraiment, c'est tellement abusé. Je me dis, il a fumé il est dans un état. Moi-même, je me mets dans cet état de transe un peu qui est le sien, à mon avis.
Et petit à petit, vous commencez à mimer éventuellement, ouais, sa fierté, sa posture d'ancien président de la République, parce qu'on est donc le 14 mai 2017 et il fait une sorte de bilan très hâtif. De son quinquennat. Je dis, le spectacle commence encore comme ça, c'est qu'il n'a pas aussi toujours commencé comme ça, j'imagine.
Ah non, il y a eu plein de... En fait, ce qui a le plus changé, c'est le début et la fin. J'ai réécrit, ça fait 3 ans et demi que je le joue, depuis décembre 2014. Donc, du coup, forcément, il y a tout le temps des choses qui ont bougé quoi. Dans le spectacle aussi, mais c'est vrai que le début, en fait, avant il y avait un très long passage sur les chats. Au début il y avait un très long passage sur les chats, sur la vie de couple, les chats, etc. Les chats qui tombent par le toit, machin. Enfin, ça durait presque 20 minutes. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'avais écrit ce début parce que un peu pour m'excuser de parler de politique après, comme si quand on est une femme, on n'est pas légitime de tout de suite rentrer dans des sujets sérieux et politiques, même si je les traite avec humour, et qu'il fallait faire du divertissement. Et à un certain point, je me suis rendu compte que les gens qui venaient à mon spectacle parce qu'il y avait un chat sur l'affiche et que ça s'appelait Chaton Violent, en espérant que je fasse un spectacle entier sur les chats, étaient vraiment hyper déçus parce qu'en fait, après, je leur parlais de voilà plus de sociologie ou de politique pendant une heure, et que les gens qui finalement savaient pourquoi ils venaient, à savoir justement cette espèce d'étude au microscope des BBB, les bons blancs bobos, ils étaient mais on s'en fout des chats au début, enfin ils s'ennuyaient un peu, donc il y avait un peu comme deux parties. Et du coup j'ai fait le choix de commencer par déjà le thème de la politique, puisque finalement il traverse tout mon spectacle.
Et alors, s'il a beaucoup changé à la fin, il a changé dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui a bougé profondément depuis que vous le jouez, ce spectacle-là?
Bah, en fait, c'est juste, le fond est toujours le même, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est toujours la même chose, sauf qu'il y a eu tellement d'événements qui ont illustré mon propos de manière cinglante et vraiment incroyable dans l'actu, que je me suis appuyée dessus. Par exemple, quand il y a eu l'expo Exhibit B, j'ai très longtemps joué un sketch sur Exhibit B, parce que c'était tellement fou pour moi, c'était tellement à l'image de ce que j'étais en train de dire dans mon spectacle.
Vous pouvez rappeler ce que c'est?
Et donc, Exhibit B, c'est une performance exposition, on va dire, qui a été qui a fait beaucoup de bruit en fait à Paris, mais pas que à Paris, aussi à Londres où elle a été interdite, elle a réussi à être interdite par les militants, parce que c'était une exposition qui mettait en scène des personnes noires qui étaient dans des cages, plus ou moins, en tout cas dans des mises en scène, dont certains dans des cages. Et il y a eu des militants antiracistes qui ont dit que c'était insupportable, qui voulaient interdire cette exposition. Je pense qu'ils voulaient surtout prendre la parole pour dire pourquoi eux ils trouvaient que ça faisait système de voir encore des corps noirs silencieux et exposés dans un lieu
silencieux. Excusez-moi,
ouais, vraiment, parce qu'ils avaient eux pas la parole, et dans un contexte où c'est dans des endroits réservés surtout aux blancs, en tout cas adressés. Même si ces lieux ne cherchent pas à s'adresser particulièrement aux blancs, malheureusement le public l'est. Et donc voilà, il voyait dans cette expo la reproduction de quelque chose qui fait déjà système. Et cette parole n'a pas du tout été écoutée en fait. Et donc le truc est monté, il y a eu des manifestations, enfin ça a été assez brutal. Et en fait, moi je suivais ça de très près, et je trouvais que les témoignages des militants qui étaient contre cette expo, je trouvais ça très intéressant en fait, ce qu'ils disaient sur leur vécu de noir, de corps noir dans notre société, etc. À ce moment-là, ce que je lisais de plus intéressant. J'avais vraiment, de tout que je pouvais lire sur Internet, partout, c'était ce que je trouvais vraiment de plus enrichissant.
Concernant quoi? La vie de notre société, notre vie
collective? Notre société, concernant qu'est-ce que c'est d'être noir en France aujourd'hui. Et tout d'un coup, je tombe sur un article dans Télérama. Bon, après, moi, c'est là où je suis trop naïve. C'est-à-dire que pour moi, Télérama, c'est quand même, normalement, ça doit être un média, je sais pas, bien, quoi, qui veut dire des trucs bien. Et ça, c'est mon côté BBB où je donne trop de crédit, peut-être parfois, à certains médias. Et tout d'un coup, je vois un article, mais vraiment qui balaye d'un revers de la main avec une condescendance infinie ces manifestants et leurs propos, qui ne cherchent absolument pas à comprendre et encore moins à se remettre en question, qui dit en gros, mais enfin c'est de l'art, ils ont rien compris quoi. Ce qui est quand même génial quand on a quelqu'un qui est dans la majorité dominante, qui nous explique à nous les minorités qu'on n'a rien compris et que si on est blessé, c'est que vraiment on a un problème quoi. Comme quand un mec vous met une main au cul et vous dit bah non mais attends, je déconne quoi. C'est exactement le même truc. Et donc là ça m'a tellement choqué parce que c'était justement dans un média qui est pour moi au cœur de ce qui est censé incarner l'élite ou la réflexion. En fait, ça m'a tellement énervé que j'ai écrit tout un sketch là-dessus sur des personnages comme ça qui vont à la manif, qui vont à l'expo, qui trouvent ça génial, et ensuite qui regardent les manifestants. En fait, ils sont encore au spectacle. C'est-à-dire, ils regardent, oh, regarde, ils s'énervent, voilà. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont exactement en train de faire, voilà, comme ils font avec cette expo, et qui comprennent pas pourquoi tous ces noirs s'énervent alors que cette expo est vraiment géniale. Donc voilà, et donc ce sketch typiquement a tenu un certain temps, autant qu'on en parlait beaucoup dans les médias, parce que c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé. Au bout de 6 mois ou je sais plus combien de temps, ça devenait un peu caduque, les gens savaient plus trop, il y avait plein de gens qui ne se souvenaient pas de cet événement. Du coup, et puis il y a eu d'autres événements qui ont fait que j'ai réécrit. Bon voilà, après les attentats du 13 novembre, j'ai eu une longue période où j'ai écrit tout un sketch qui était en fait presque cathartique en fait, parce que finalement c'était un peu nous les BBB qui avions été aussi attaqués, en tout cas de fait, même si c'était pas forcément nous la cible, en tout cas c'est bon, ça l'était sans doute un peu. Et donc j'étais obligée de le prendre en compte. Je pouvais pas moi-même être dans une espèce de critique d'un groupe social qui venait de se faire tirer dessus et auquel moi je m'identifiais, parce que finalement, même si moi j'ai pas perdu d'amis, j'ai eu beaucoup d'amis en fait qui ont disparu ou qui ont été blessés, donc forcément il fallait le prendre en compte, quoi. Enfin, je pouvais pas passer à côté, voilà. Donc c'est vrai que l'actu m'a beaucoup nourri. Voilà, moi j'ai commencé à jouer ce spectacle 15 jours avant les attentats de Charlie Hebdo, et du coup j'ai joué le soir même des attentats, de ces attentats-là. C'était hyper violent pour moi. Et en même temps, on m'a dit, moi je voulais annuler. On m'a dit, mais non, il faut jouer, les gens viennent, ils ont pas annulé, ils viennent quand même. Donc moi je suis allée à la manif interdite à 18h à la République, parce que j'étais évidemment bouleversée. Et qu'en plus, voilà, pareil, c'est bon, bah, des gens avec qui on a grandi, etc. Et j'ai quand même été jouée. Et en fait, en jouant, c'était terrible, parce que j'ai même pas relu mon spectacle. Enfin, j'étais juste dans mon émotion, dans ma tristesse ou mon choc, on va dire.
Il y avait infini d'écho.
Et voilà. Et d'un coup, je joue et je me prends les trucs dans la gueule. C'était l'enfer, quoi. Enfin, c'était... Parce que, par exemple, il y avait une blague...
Mais c'était l'enfer ou c'était bien? Parce que finalement, bah, lorsque vous dites... j'ai vécu un moment donné où je lisais des choses passionnantes sur des personnes qui prenaient la parole, et j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas entendues ou pas suffisamment à mon goût dans la sphère médiatique. Donc, je l'ai intégré concernant... Je l'ai intégré à mon spectacle. Donc, c'est comme si vous en faisiez volontairement un espace de résonance, ce spectacle-là.
Absolument. Mais c'était juste que là, j'ai pas eu le temps de le penser. Mmh. Et donc, en fait, par exemple, il y avait dans mon spectacle, à ce moment-là, je faisais une blague sur le petit Ahmed à l'école qui vient, mais il avait une Kalachnikov au début dans le spectacle. Et c'était marrant parce que c'était tellement impensable. En fait, c'était tellement. Donc c'était comme si je racontais un fantasme. Et tout d'un coup, 3 heures plus tard, je dis ça. Et donc, moi-même, j'ai fait une tête genre. Et donc après, ben, finalement, il avait un pistolet en plastique parce que finalement, je voulais continuer à dire que c'est fou d'emmener un enfant en garde à vue, parce que c'était évidemment. Après, je l'ai réécrit pour rebondir sur cette histoire de cet enfant qui s'est retrouvé au commissariat parce qu'il avait fait l'apologie du terrorisme. Il avait 6 ans ou 8 ans, donc c'était quand même un peu dingue. Mais au tout début, j'avais un sketch qui était très absurde jusqu'en janvier.
Absurde parce que vous le pensiez très, 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 très loin du réel et très, très, très proche de beaucoup de fantasmes, voilà, qui étaient nourris à l'époque.
Donc après, il fallait juste, moi, j'ai pas changé d'avis ou je pense toujours la même chose que ce qui m'a fait écrire le spectacle en 2014. Néanmoins, il fallait un peu le dire autrement. Et par exemple, pour le 13 novembre, j'ai volontairement pas joué 2 jours après, parce que il fallait juste que je puisse repenser, réécrire, redire autrement. C'est juste dire les mêmes choses, mais parfois avec une autre forme ou plus de douceur, parce qu'on est encore dans l'émotion.
Et surtout, rire, oui, mais du coup, en ayant la possibilité d'une forme de maîtrise. C'est-à-dire que si vous attendez 2 jours pour jouer après les attentats du 13 novembre, c'est pas parce que vous renoncez à rire dans ce genre de conditions, c'est parce qu'il vous faut un temps de pensée et d'écriture pour pouvoir rire, mais comme en connaissance de cause, quoi.
Voilà. Et puis d'essayer de se sortir de ce choc traumatique, de qu'est-ce qu'on fait. Donc dans ce sketch, justement, après le 13 novembre, je faisais revenir mes personnages. Il y avait Jérôme, la fille de Montreuil, et on se retrouvait et on se disait faudrait peut-être qu'on monte un parti politique, vraiment, ces choses qui se passent, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis finalement, ils étaient juste en train de boire une bière en terrasse, et c'était hashtag je bois une pinte, et évidemment que je me moquais de nous deux, mais et aussi de notre désarroi et de notre désespoir, où finalement ils disaient mais monter un parti politique, faut se lever hyper tôt, faut aller sur les règles, sur les marchés, merci, en moon boots l'hiver, merci le style. Bon, et voilà, donc je continuais finalement à me moquer de nous, mais avec quand même, en montrant qu'on avait envie, quoi, on essayait de faire quelque chose, et puis on était un peu nuls, quoi.
Et ça commence par, on l'a dit en ce moment, en tout cas le spectacle commence par la voix de François Hollande, en même temps qu'une rupture amoureuse. Cette fin de quinquennat vient comme une sorte de jumeau, d'une fin d'histoire d'amour. C'est parce que François Hollande a été une possibilité d'histoire d'amour pour la France.
En fait, on essaye toujours d'avoir une histoire d'amour avec notre président. Après, on y arrive plus ou moins bien. C'est souvent conflictuel, comme les histoires d'amour. Et donc oui, en effet, ça m'amusait de faire ce parallèle entre ma rupture, où je m'étais fait vraiment plaqué, j'étais vraiment en échec, quoi, et lui qui était vraiment en échec total, où il avait plus aucune popularité à la fin, mais il finit quand même en disant et je te laisse dans un bien meilleur état que celui dans lequel je t'ai trouvé. Et souvent on dit ça quand on se fait plaquer comme une mère, on dit ouais, ok d'accord, mais n'empêche que tu vas vachement mieux maintenant. Et c'est vraiment tout ce qu'il nous reste à dire, quoi.
Mais ça veut dire que vous y avez cru à un moment donné aussi, Anne Rosemary, parce que c'est tout un spectacle qui dit aussi beaucoup d'illusions, de désillusions, mais aussi de croyances à un moment donné dans ce qui est représenté comme étant la gauche. Ce terme-là, il est vraiment, il arrive à plein d'états dans votre spectacle, à des états d'espoir et à des états de totale impuissance. La gauche française.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est sûr que moi, avant le quinquennat de François Hollande, j'avais des espoirs. J'avais même plutôt été très fervent soutien, quoi. Parce que il avait promis le mariage et la PMA. Moi, c'était surtout là-dessus que j'ai eu la bêtise de lui faire confiance, en fait. Et après, quand on a vu comment ça a été géré cette affaire de mariage pour tous et la place qui a été laissée à nos opposants, qui était vraiment pour moi une erreur stratégique ou volontaire, en tout cas, de la gauche. Et je pense que ça aurait pu être vraiment fait beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Et on aurait pu, en tout cas, le gouvernement aurait pu éviter ces manifestations et les médias auraient pu éviter de leur donner autant d'importance. Enfin voilà, c'était un truc collectif. Mais donc c'est vrai que rien que pour ça, c'était déjà une énorme désillusion. Et évidemment, sur tout le reste aussi, la déchéance de nationalité. Enfin, on s'est pris des trucs quand même dans la gueule souvent. Ça aurait été le FN, on aurait tous été dans la rue. Et là, c'était à gauche, on faisait ah bon, bah ok. Alors, enfin, on faisait pas ok, mais on avait des réactions peut-être moins virulentes. Et donc, il y a évidemment.
Vous en faites aussi une histoire de cette suite de amour, désillusion. Ce n'est pas que le quinquennat Hollande. Vous remontez à la gauche des années 80, c'est-à-dire comme si vous aviez en vous une histoire politique comme ça d'attirance-répulsion avec des espoirs de changement déçus.
Ouais, tout à fait. Bah en fait, j'essaye d'articuler comment on en est arrivé là à mon humble niveau hein, et en faisant des blagues. Là, j'ai pas l'air marrante, mais en fait, c'est marrant le spectacle. J'ai dit, c'est vrai qu'en interview, je suis là, attends, alors donc en 82. non, mais donc clairement toute l'histoire de la gauche française, en tout cas depuis les années Mitterrand, il y a un continuum très fort. Il y a une explication à comment on en est arrivé là en fait. Et comment la gauche a aussi produit du racisme, de la discrimination en permanence avec ces minorités. Donc voilà, j'essaie juste de traverser ça et donc d'expliquer comment on arrive à un quinquennat aussi catastrophique et d'en rire évidemment et puis d'essayer surtout de se poser des questions avec mon public, quoi, d'essayer de réagir à ça.
Quand vous dites et d'en rire évidemment, on a dit tout à l'heure donc une sorte de spectacle caisse de résonance, le rire apporte quoi? Qu'est-ce que ça nous permet de plus que ne permet pas, par exemple, la lecture d'un article qui va nous éclairer, pour le coup, alors peut-être pas cet article déceptif que vous aviez lu, mais qui va nous éclairer sur quelque chose qui se passe.
Ouais. C'est que le rire, en fait, c'est une émotion, quoi. C'est une émotion positive et qui, du coup, fait que les gens s'ouvrent. Parce que quand on rit, on se met en disponibilité, hein, en réalité. C'est une forme de plaisir, le rire. Donc, du coup, moi, ça me permet de faire passer des choses que j'arriverais pas forcément à faire passer si je les disais sérieusement. Et d'ailleurs, je le vois, puisque quand je peux discuter avec quelqu'un hors spectacle, très sérieusement,
ça marche moins.
Peut-être en m'énervant, la personne en face peut se fermer tout de suite. Alors que si je la fais rire, que je l'embarque avec moi, et que je crée une identification aussi à mon personnage ou à mes personnages, elle va être très disponible, très ouverte, et elle va se dire « Ah ouais, c'est vrai quand même ». Et tout d'un coup, peut-être, elle va réfléchir. Donc, évidemment, le rire ne suffit pas, et je n'ai pas du tout la prétention de croire que je vais faire changer d'avis en profondeur les gens, parce que un spectacle ne suffit pas de toute façon. Mais c'est le cumul, peut-être, de, justement, cet article qu'ils vont lire, une autre personne qui va s'énerver, moi qui va les faire marrer, et tout cumulé fait que peut-être à un moment les gens peuvent bouger un peu, mais le rire en tout cas c'est une arme parmi d'autres, quoi. Elle est ni mieux ni moins bien,
mais elle rend susceptible au mouvement, on va dire.
Ouais, voilà, je pense qu'elle peut aider à trouver une ouverture chez les gens. Ouais.
J'ai passé mon enfance en pleine guerre froide, rappelant qu'à l'époque les manifestations étaient quand même des manifestations souvent interdites, donc j'ai des images de manifestations. Il devait s'agir de 1er mai, je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir d'autre que des 1er mai, puisque c'était quasiment les seules manifestations qui, du moins jusqu'en 53, ne présentaient pas trop de risques. Mon premier vrai souvenir, je dirais d'acteur manifestant, c'est les obsèques de Charonne. Mais évidemment, ces obsèques avaient revêtu un tour particulier, et d'une certaine manière, il s'agissait d'une manifestation extrêmement impressionnante. On a connu depuis des manifestations d'une très grande importance numérique, j'entends. Là, c'était quand même par ailleurs un moment de reprise de la rue après les années de guerre froide, à la faveur d'une circonstance qui rendait difficile d'interdire ou de limiter ce déploiement dans l'espace public. Donc oui, la puissance, c'est la douleur et la résolution. Je suis d'une famille de militants, j'ai milité dès que j'ai eu l'âge de militer, et je crois que pendant un certain nombre d'années, et en gros le tournant des années 80, la politique pouvait supposer, la politique, et je me rends compte que c'était un mot riche, c'était un mot porteur, et je suis obligée de m'arrêter en vous disant le mot politique, parce que je sens bien combien aujourd'hui le mot est dépourvu de cette capacité de rêve, de mobilisation qu'il avait. Oui, on était des acteurs, on se sentait des acteurs. Ça passait pas principalement par la manifestation de rue. Il y avait des forces politiques organisées, des partis, des syndicats. Donc, il arrivait que dans le cadre de l'action militante, on soit dans la rue. Mais finalement, la rue n'était qu'un élément d'une action politique multiforme.
Elle prend pas mal de précautions, Daniel Tartakovsky, au micro de Laura Adler en 2014, sur les formes prises par la lutte et sur le regard qu'elle peut porter sur son précédent parcours politique, chercheuse, ancienne directrice de l'Université Paris 8, Océane Rosemary. Dans le spectacle, il y a des moments où clairement, on sent, et on entendra un extrait tout à l'heure, que pour vous, être sur scène, c'est aussi une manière de réfléchir à des leviers de lutte. Mmh. À des manières d'être politique, d'être dans la politique. Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres endroits dans votre vie où vous avez trouvé des échecs ou des formes non satisfaisantes et que vous vous dites peut-être là, alors on dit c'est un espace rire pour initier un mouvement, est-ce que pour vous ça va au-delà? Est-ce que éventuellement c'est une forme de la lutte?
Oui, complètement. Moi je suis militante, j'assume totalement le fait d'être militante et d'avoir des spectacles militants. Après clairement, c'est pas ça qui s'est passé, c'est plutôt que j'avais une nature plutôt humoriste, comique très tôt et artiste aussi. Donc ce que j'ai commencé à écrire
à faire la musique,
vraiment vers même 12-13 ans, j'écrivais des chansons, des textes et tout. Et donc ça a été un peu, c'était une vocation en tout cas, je faisais du théâtre même enfant très tôt, je savais que je voulais faire ça quoi. En fait, très très tôt. Donc après, ça a pris plusieurs formes. En effet, je suis passée par la musique, à un moment, d'ailleurs dans une forme absolument pas militante à ce moment-là. Et ensuite, l'humour m'a rattrapée parce que quand je faisais de la chanson, j'avais presque 15 minutes où je faisais le clown, où je faisais des blagues, et puis qui étaient déjà des blagues entre guillemets un peu sociologiques ou en tout cas. Et à un moment, je me dis non, mais il faut que j'assume ce désir de comédie et que j'aille au bout et que je fasse de la comédie. Sauf que j'avais 30 ans, j'avais pas de CV, j'avais un CV vierge en tant que comédienne, et donc il fallait faire les choses soi-même. 30 ans, c'est déjà la retraite hein, quand on est comédienne pour commencer. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire mon truc moi-même. Et puis, je me suis dit, bon, bah, si je monte sur scène, alors bon, bah, seule, ça sera plus simple, ça coûtera moins cher, ok, bon, ok. Et alors, de quoi je vais parler? Parce que moi, quand je vois le stand-up, tout ça, c'était pas, enfin, ou même les spectacles d'humour, j'avais pas une grosse culture d'ailleurs en spectacle d'humour, mais ce que je connaissais, c'était pas ma culture, en tout cas, je venais pas de ça. Moi, je venais plus justement d'une famille un peu plus, plus théâtre public, etc. Donc, j'avais un petit mépris aussi pour cette forme-là, que maintenant je suis complètement revenue dessus parce que j'ai une immense admiration maintenant pour les gens qui font du stand-up et qui arrivent à être drôles juste en faisant des vannes, en tenant un micro dans la main. Mais bref, en tout cas, je me suis dit bon, il faut que j'ai quelque chose à dire. Si je monte sur scène, je dois dire quelque chose. Je vais pas juste faire des blagues sur Facebook et sur je sais pas quoi. Donc je me suis dit, ah bah tiens, il y a bien un sujet dont j'aimerais parler parce que je trouve que je me heurte à beaucoup de préjugés et d'ignorance, ce qui est l'homosexualité féminine. Et de là, j'ai eu l'idée d'écrire mon premier spectacle, La Lesbienne Invisible. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il était militant, parce que au départ, je voulais
et
juste.
Et au départ, vous voulez juste être drôle.
Être drôle et déconstruire aussi des clichés sur les lesbiennes et faire avancer quand même les choses. Donc, il y avait quand même, il y avait un instinct militant qui n'était pas encore pensé comme tel, mais en tout cas qui était déjà présent en moi. Et ensuite, qui s'est complètement renforcé avec tout le parcours de Lesbienne Invisible, où je me suis rendu compte à des moments que je pouvais être entre guillemets porte-parole d'une communauté, parce qu'on était très peu de lesbiennes dans cet espace artistique et donc médiatique à prendre la parole de manière comme ça très libérée et out. Donc j'ai senti une responsabilité, donc je me suis mise à réfléchir à tout ça, à être obligée de me positionner sur quel était mon féminisme, puisqu'il y a quand même beaucoup de féminismes et qui s'affrontent les uns aux autres. Et à partir de là, j'ai eu envie d'écrire Chaton violent, et là donc c'était dans une démarche totalement militante évidemment, et puis mais aussi avec le désir de bien sûr de faire rire et d'être sur scène quoi.
Et Chaton violent qui ajoute, alors moi je l'ai pas vu, La Lesbienne Invisible, mais qui ajoute quand même, je crois, à la prise de parole, l'idée de l'intersectionnalité, oui. Et qu'une discrimination est aussi une possibilité ou un point de départ pour penser d'autres discriminations.
Absolument.
Et pour penser tout ce qui peut faire système dans des processus d'exclusion. Oui. Alors, on disait tout à l'heure, c'est un spectacle drôle, il faut en effet pas oublier de le répéter, mais c'est un spectacle qui n'oublie pas de faire l'histoire de ce que vous racontez, qui n'oublie pas de faire l'histoire de la manière dont c'est aussi passé par vous. Et par exemple, vous racontez, enfant, que vous avez entendu des choses qui vous permettent, quelques années plus tard, de comprendre qu'il y avait un système ouais. raciste, par exemple, lorsque vous parlez des personnes qui faisaient le ménage ou qui gardaient les enfants.
Oui, tout à fait. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait système. J'ai été très attirée par la sociologie. En fait, je pense que si j'avais compris que je pouvais en faire mon métier, j'aurais fait de la socio. Et puis finalement, j'ai fait des lettres. Et puis du coup, après, je suis devenue artiste naturellement. Mais d'ailleurs, j'ai été invitée il y a pas longtemps à l'EHESS. Et puis il y a une prof de socio qui est venue de Nanterre et qui est venue avec toute sa classe parce qu'elle dit c'est exactement ce que je leur dis en sérieux. Et tout. Donc il y a un vrai pont entre moi et les sociologues. Même si encore une fois, voilà, ça prend une autre forme. Mais ça, ce qui m'intéresse, oui, c'est ce qui fait système. Et quand on commence à comprendre que des expériences individuelles en fait font système, que ce soit en tant que femme, en tant que lesbienne, et ensuite en tant que blanc, et quand on échange avec des gens qui sont dans d'autres minorités et qui nous racontent que eux ont pu décrypter que ce qui leur arrive fait système, alors il me semble très intéressant de le dire et de pouvoir le déconstruire. Donc du coup, d'ailleurs c'était assez lié à mon passage ici dans cette maison. J'ai passé 2 ans à faire des chroniques à la maison de la radio à France Inter. Et tout d'un coup je me suis dit, tiens c'est marrant, mais il y a quand même presque que des blancs. On est tous plus ou moins issus de milieux communs, même s'il y a des gens qui sont des transfuges et qui ont fait une ascension sociale, mais quand même il y a une homogénéité en fait au sein de cette maison qui est quand même la radio publique française. Ça c'est énorme, ça c'est un paquebot en plus, même physiquement c'est énorme ici, et que voir qu'il y a autant de gens et une telle homogénéité, et c'est, je le dis vraiment pas au sens positif, je me dis mais c'est grave, ça veut dire que tout ce qu'on pense finalement, et puis même en discutant avec des gens, avec des collègues que je ne citerai pas mais qui travaillent beaucoup dans cette radio, qui ont plusieurs émissions et tout, en rigolant, qui me disent tu sais de toute façon nous limite on couche ensemble hein, parce que de toute façon on n'a pas de vie, on est ici tout le temps, on descend aux ondes, après on remonte, on bosse hein, et en gros on rigolait de ça, mais je me dis mais donc ça veut dire quoi, ça veut dire que
ce qu'on produit à l'antenne est aussi issu de ça,
et que donc les gens qui produisent de l'information et un jugement sur ce qui peut se passer de toute façon ne sont pas sortis pendant leur semaine de 8h du matin à minuit, ils sont dans les locaux ou au café qui est en bas. Donc ça veut dire que tout est filtré et que tout ce qu'ils reçoivent comme information est filtré aussi par des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont pas eux forcément être après il y a évidemment qu'il y a des journalistes qui vont et qui se déplacent etc, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas sur le regard qu'on peut avoir. Et à partir de là je me suis dit mais en fait c'est un peu flippant quoi, il y a une exclusion qui est très forte, et donc ça m'a permis de repenser aussi moi toute mon histoire, de me rendre compte que finalement il y a des gens que je connais aujourd'hui qui étaient au collège avec moi, qui sont aujourd'hui des metteurs en scène, qui travaillent en théâtre public depuis qu'ils ont 25 ans, donc c'est quand même très jeune, d'autres qui se font de la prod, donc qui sont architectes. Enfin, en fait, on est dans un milieu qui est vraiment dans un entre-soi, et c'est des gens finalement que je connais depuis le collège. Donc quelque part, moi, quand j'arrive avec un projet artistique, même si je connais personne, même si entre guillemets je connais personne dans le sens où j'ai pas évolué dans ce milieu-là, j'ai déjà un réseau. J'ai déjà un réseau, que quelqu'un qui débarque de la campagne ou de même d'une autre petite ville ou de banlieue et qui en plus n'a pas les codes, ça va être beaucoup plus dur pour lui, quoi, évidemment. Et donc tout d'un coup, j'ai juste pris conscience du degré de privilège dans lequel je vivais, quoi. Et il y a des privilèges qui sont invisibles. Le privilège, c'est pas juste l'argent ou connaître des gens. C'est aussi, voilà, savoir être, savoir se conforter, savoir s'exprimer, savoir communiquer, savoir faire des relations, connaître des gens qui font qu'on est dans une soirée. Ah, mais non, mais je l'ai rencontré dans une soirée. C'était vraiment par hasard. C'est vraiment une chance. Bah non, c'est pas une chance. C'est de la sociologie. C'est que t'étais dans cette soirée parce que ça s'explique depuis ta naissance, en fait, que un jour tu serais dans cette soirée, que tu croiserais cette personne. Donc voilà. Et tout ça, je trouve ça intéressant. D'en parler aussi parce que je me rends compte que dans ce milieu qui pourtant se veut plutôt un télo ouvert de gauche, etc., il y a un impensé de la race, notamment de la race sociale évidemment, qui est très fort. Il y a un impensé de la blanchité, il y a un impensé de l'hétéronormativité qui est incroyable. C'est-à-dire que en fait, t'es hétéro, t'es normal, et t'es homo et sur la cisnormativité j'en parle même pas, c'est-à-dire que si t'es trans c'est forcément que t'as un problème, quoi. Donc et tout ça, il y a énormément de pédagogie à faire, et moi ça m'intéresse et ça m'amuse de participer à cette pédagogie avec, encore une fois, avec des blagues.
Le soir où je suis venue voir Chaton Violent, vous avez eu un trou de mémoire au moment où il fallait dire que cette prise de conscience et la possibilité de tenter de penser ses impensés venait du moment où vous-même subissez de la discrimination due à votre homosexualité, à la manière de le vivre dans l'espace public, dans votre vie, etc. Je me suis dit, mise en scène de ce trou de mémoire où vraiment l'absurde total d'un moment charnière.
Non, franchement c'est un truc de fou parce que j'étais hyper fatiguée, très fatiguée et un peu speed, donc j'allais vite et tout, et j'ai jamais eu de trou de mémoire, je vous jure, j'ai jamais eu de trou de mémoire. En fait si, je peux avoir des petits trous, mais comme je sais ce que je dis, je le dis un peu autrement,
là,
je trouve une autre phrase.
Vous avez dit Adeline, et là j'ai eu un
bug, vraiment j'ai eu un bug absolu, genre le blanc dans mon cerveau, quoi. Donc j'ai dit ouais, heureusement il y avait ma manager qui était là, qui connaît mieux mon spectacle que moi, et elle m'a elle m'a remis sur mes rails, mais parce que j'étais aussi, je m'étais laissée emporter aussi, parce que je disais avant, au point que je savais plus du tout, voilà ce que je veux dire. Mais oui, en effet, c'est ce moment où je reviens en arrière et où je raconte comment mon homosexualité finalement m'a permis ou forcé, mais finalement permis, de d'être un peu à l'extérieur du groupe et de le regarder et du coup de l'observer et de le croquer, quoi. Donc comment finalement le fait d'être entre guillemets différente dans un groupe plutôt encore une fois homogène m'a permis aussi de penser les autres différences.
Alors, comment vous dire, c'est vrai que c'est très énervant hein, de se prendre une prune, c'est très énervant. Enfin, comment vous dire, je ne pars pas en courant, car je n'ai pas peur de la police. Et eux ne me tirent pas de balles dans le dos, comme à Amine Bentoussi. Et même si c'est des gros cons de flics vraiment, vraiment agressifs, je n'ai pas du tout peur qu'ils me déchirent l'anus sur 10 cm, comme à Théo Louaka, ou qu'ils s'assoient à 3 sur mon visage et mon plexus solaire, comme à Adama Traoré, jusqu'à ce que je décède par asphyxie. Par crise cardiaque, excusez-moi. Alors oui, je peux me plaindre. Je peux me plaindre, hein, je peux me plaindre en tant que femme. Je peux me plaindre en tant que lesbienne. Je peux me plaindre en tant que n'appartenant pas à la liste Forbes des 5000 personnes les plus riches de France. Alors ça me fait super chier de pas y être, on va pas se mentir. Hein. Ah, super chier. Mais je ne peux pas dire, ni supporter d'entendre, qu'il existe du racisme anti-blanc. Le racisme, c'est pas juste, il m'a insulté, il m'a tapé, c'était horrible. Non, le racisme, c'est un système. C'est une domination économique et même culturelle qui s'est organisée depuis des siècles de nos pays sur d'autres pays et qui continue même si ça s'appelle plus des colonies. Et cette domination, on l'a importée à l'intérieur de nos frontières. C'est ça le racisme, quand c'est organisé, validé, structuré par l'État. Mais malgré notre dégoût d'une classe politique nauséabonde, malgré le cynisme, cet ennemi fourbe qui s'immise dans nos bouches quand on parle, alors qu'on n'était pas comme ça avant, on s'en souvient, c'était il n'y a pas longtemps. Malgré notre colère, notre saine colère, je crois qu'on peut faire mieux. Je crois qu'on peut au moins essayer de faire mieux. Et puisqu'il ne reste que le chaos et que nous sommes déjà morts, plus que jamais, luttons ensemble!
Océane Rosemary, c'est un extrait du spectacle Chaton violent, assez avancé dans le spectacle.
C'est la fin,
dire.
Vous êtes en train de griller ma fin, franchement, c'est abusé, vous auriez pu me demander. Hein.
Pas exactement la fin.
C'est la presque fin.
C'est la presque fin. Je me suis demandé si là aussi, dans cette énumération dont on sent qu'elle est tout de même pleine de sincérité, de constats très forts et d'expériences très fortes, je me suis demandé si là aussi il n'y avait pas un brin d'ironie qui s'était glissé. Si le luttons ensemble n'était pas aussi regardé comme une aspiration non pas vaine mais vraiment difficile à mettre en acte.
Ben, en fait, ce moment est en effet ambivalent parce que il est sincère, mais en fait, juste derrière, je le recasse entre guillemets avec ce sketch de fin où je vais pas forcément dévoiler, mais où qui montre que ouais, en effet, c'est vraiment compliqué d'être ensemble, en fait, de lutter ensemble, de faire des choses ensemble. Mais néanmoins, il est sincère et disons que je n'élude pas sa complexité, sa difficulté, quoi. Mais il est quand même sincère. Je crois qu'il faut lutter ensemble. Je crois, pour moi, c'est ça aussi. C'est pour ça que je me définis comme intersectionnelle. C'est que je pense que nous devons être sur plusieurs luttes, y compris des luttes qui a priori ne nous regardent pas, mais parce qu'en fait, si un système de domination qui se met en place à certains endroits, au fond, on se fera toujours avoir. Donc, si par exemple les féministes entre guillemets ce qu'on appelle le féminisme blanc, qui ne lutte que sur l'égalité salariale, bon, peut-être les violences conjugales, enfin, mais surtout qui lutte sur le plan du travail. Et qui ne prennent pas en compte le fait que les femmes non blanches, bah du coup c'est ces mêmes femmes qu'elles vont employer quand elles pourront être chefs d'entreprise et que donc elles vont reproduire un système raciste, ou encore quand elles s'intéressent au harcèlement de rue et ne vont s'intéresser que aux non blancs qui entre guillemets harcèlent, etc. Pour moi, elles vont reproduire un système raciste, et donc le féminisme devient un outil pour produire du racisme, et ça c'est très problématique. Donc en fait, pour moi, si on dissocie les luttes, on va se faire avoir. Et même elles, en fait, en faisant ça, à la fin, elles se font quand même avoir, quoi. Donc je pense que, en effet, c'est important d'aller aux manifestations contre les violences policières, de se préoccuper de la grossophobie, de l'andiphobie, enfin, parce que en vrai, si on pense qu'on va juste tirer notre épingle du jeu, et ça pour moi c'est un vrai risque aussi pour la communauté entre guillemets LGBT, je dis entre guillemets communauté parce que c'est une communauté très, pour le coup, très hétérogène, c'est de tomber dans un truc comme on le voit là, une espèce de d'homonationalisme, en fait, où on n'est plus que sur ouais, mais nous les gays, et puis du coup, on fait plus gaffe aux migrants, on fait plus gaffe aux gays qui sont racisés et qui ont peut-être ont d'autres vécus ou d'autres histoires ou qui évoluent dans des familles où c'est pas aussi simple que juste de faire des injonctions au coming out, etc. Bref, tout ça pour dire que on peut avoir tendance à vouloir sauver sa peau à tout prix en pensant que ça va aller, et en fait laisser ou même accentuer par notre démarche d'autres discriminations, et à mon avis c'est une erreur, on n'y arrivera jamais comme ça. Donc oui, on doit lutter ensemble et on doit déconstruire un système global. Ouais.
Et vous n'éludez pas la complexité, je suis désolée, je vais quand même griller votre faim, Océane Rosemary, mais ça n'empêchera personne d'aller rigoler avec vous au spectacle. À la fin, lorsque je dis que vous revenez sur scène pour dire surtout faites attention à qui vous en parlez, on est bien ensemble, moi je milite pour que cet entre-soi reste ensemble, moi je me suis dit, en effet, pendant le spectacle, vous désignez une personne au premier rang. Il se trouve que c'était un homme blanc, assez grand, avec une petite barbe, qui devient le Ahmed de la classe, ouais, qui a 6 ans et qui doit se coltiner l'atelier des valeurs républicaines et, ouais, lui aussi chanter la Marseillaise. Et vous adressez à lui en l'appelant Ahmed et en nourrissant ce sketch aussi effrayant que hilarant. Et à la fin, bien sûr que non, c'est pas Ahmed qui est au premier rang. Et d'ailleurs, peut-être ce soir-là, il n'y en avait pas du tout d'Ahmed dans la salle. Et ce que fait cette dernière boucle, c'est dire tout ce que je viens de dire pendant une heure et demie, je l'ai dit et je pèse mes mots et j'espère que ça fera œuvre dans votre tête. Mais par contre, j'ai l'impression que vous dites aussi votre échec à réunir dans cette salle-là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Ça ne veut pas dire que dans la classe des personnes, des étudiants de Nanterre, il n'y en avait pas, des personnes, ouais, qui ont, par exemple, des parents qui ont migré en France depuis d'autres pays. Mais j'ai l'impression que vous êtes assez honnête sur le fait, sur la limite. Ah ouais, de votre spectacle.
Bah, disons que oui, de toute façon, j'ai bien constaté que c'est surtout les personnes concernées qui viennent. Mais ça, j'ai pas mal bougé là-dessus. Parce que, par exemple, pour La Lesbienne Invisible, au départ, je vivais plutôt mal qu'il n'y ait que la communauté qui vienne. Parce que pour moi, je faisais un spectacle, c'était un outil pédagogique pour les hétéros, pour qu'ils sachent que c'est des lesbiennes. Parce qu'en fait, ils savaient pas trop, apparemment. Et donc, ils comprennent que nous sommes pareils que vous. Nous avons des histoires d'amour, des échecs. Enfin, voilà. Et puis, on me moquait un peu de leurs attitudes. Parce que La Lesbienne Visible parlait presque beaucoup plus des hétéros que des lesbiennes, quasiment. C'est-à-dire de comment les hétéros, filles et garçons, peuvent se comporter avec nous. Donc, au départ, je le vivais pas bien. Bon, après, il s'avère que le spectacle a bien marché et qu'au bout de 3-4 ans, c'était complètement mélangé et qu'il y avait même des soirs où il n'y avait pas de lesbiennes.
Mais enfin, où s'en vient?
C'était un choc. Et pour autant, je me dis oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est aussi pour elles que j'ai fait ce spectacle. C'est pour la communauté. C'est pour qu'elles sortent de là et qu'elles se sentent fières et contentes. Et qu'elles, voilà. Et puis j'ai eu des retours très positifs, des nanas qui me disent, ah bah maintenant j'arrive à dire lesbienne sans rougir. C'est ma psy qui m'a envoyé, mais du coup j'ai plus besoin d'y aller grâce à ton spectacle. Des trucs tellement mignons, en fait, tellement cool. Ou des jeunes qui sont venus faire leur coming out, qui ont emmené leurs parents en tremblant, et enfin, mais c'était des trucs, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut être plus précieux que ça, quoi? Et donc, sur Chaton Violent, c'est pareil. J'ai eu évidemment envie de parler aux gens racisés et aux militants politiques. Je les ai tous invités, tous les collectifs que je connaissais, les Moissy, enfin, tous les gens qui travaillent sur l'antiracisme politique, je les ai invités, évidemment, parce que je voulais, qu'on travaille ensemble et que, voilà. Et eux m'ont d'ailleurs renvoyé le fait que c'était très bien parce que je pouvais dire des choses aux blancs. Que eux, quand ils les disent, ils sont pas légitimes, parce qu'on leur dit, ouais, mais t'es trop émotionnel, tu vois, genre, sur Exhibit B, justement, je me souviens d'avoir une discussion avec une fille de Moissy, qui disait, non, mais on a besoin aussi que toi tu le dises, parce que tout d'un coup, comme t'es blanche, ils t'écoutent. Donc, en fait, parce que moi, j'étais là, ouais, je suis un peu deg, il y a vraiment beaucoup de blancs, il y a beaucoup de BBB, en fait, c'est les gens, finalement, à qui je m'adresse, c'est ceux dont je parle. Et ils me disaient, mais ouais, mais il faut que quelqu'un leur parle, et qu'ils leur parlent avec leur code. Donc, après, moi, j'ai continué à inviter des gens, et une fois, enfin, je vous donne un exemple, il y a une nana qui est venue avec sa mère, qui était femme de ménage toute sa vie, maghrébine, et qui a adoré le spectacle, qui m'a pris dans ses bras à la fin. Et bon, pour moi, encore une fois, là, il n'y a pas de meilleure reconnaissance de me dire que, qu'elle voit en tout cas que je pense à elle et qu'elle peut se marrer aussi de trucs qu'elle a vécu toute sa vie. Et c'était vraiment trop cool. Mais finalement, j'accepte cette réalité que oui, je vais surtout parler à des blancs, je vais surtout parler à des gens du milieu que je décris. Et en fait, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que c'est aussi eux que je veux faire bouger. Donc, et puis après, évidemment que parfois les salles sont beaucoup plus mélangées et qu'il n'y a pas que des blancs tout le temps, heureusement. Mais bon, après, de toute façon, le théâtre est un endroit où c'est très compliqué d'avoir de la mixité.
En tout cas, c'est peut-être pas très compliqué, mais c'est le cas.
En tout cas, dans nos théâtres.
C'est un public qui est assez peu mélangé. Mais par exemple, puisque vous faites dans ce spectacle-là, un centre qui serait les gens que vous appelez les bons blanc bobo, ouais. Et qu'il y en a évidemment beaucoup dans la salle. Bon, j'ai pas parlé à tous vos spectateurs ce soir-là. Ça veut dire que rire de soi, de ses contradictions, de ses violences, de la production de normes violentes sur les autres, ça augure peut-être d'un changement.
Bah j'espère. Bah attends, ça... sinon j'arrête. Hein. Non, en tout cas, je fais tout pour quoi. J'essaye juste d'apporter ma pierre à l'édifice. Après, je sais bien qu'on peut pas changer les gens comme ça, mais déjà, je veux dire, rien que le fait que c'est pour ça que j'ai réécrit aussi un truc qui a avant ce dont on a parlé, où je leur dis qu'ils sont blancs. Mais de dire aux gens qui sont blancs, aujourd'hui, en 2017-18, en France, c'est déjà, ça les fait halluciner, quoi.
Et leur dire qu'ils sont hétéros.
Et leur dire qu'ils sont hétéros. Non, mais et les gens, déjà, ils font, ah bon, quoi? Alors que, par exemple, aux États-Unis, voilà, c'est la notion de privilège blanc. Et même, elle a été abordée par les humoristes depuis très longtemps. Louis C.K. a fait des sketchs extraordinaires là-dessus, il y a des années. Donc, c'est rentré, c'est normal. Mais aujourd'hui, expliquer que le racisme, c'est avant tout ce qui fait système et pas juste des actes individuels et que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est compliqué de dire ça en France. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais non, pas du tout, hein. Ou ils vont dire, mais blanc, ça va, les couleurs n'existent pas. Ah, oui, mais moi je parle de race sociale. Enfin, en fait, je me rends compte, il y a tellement de choses à déconstruire que déjà, de juste être devant eux. Et quand je joue à Avignon, c'est trop marrant parce qu'Avignon, c'est vraiment hyper blanc. Et là, pour le coup, c'est.
Au festival,
au festival, ouais, c'est un truc de dingue parce que c'est le lieu du théâtre où les gens ont l'impression d'être super parce qu'ils sont à Avignon et qu'ils s'intéressent à plein de trucs et qu'ils sont ouverts. Et d'un coup, je les regarde et en gros, je leur dis, les gars, vous êtes tous blancs, vous êtes entre vous, quoi. Enfin, c'est ça, quand je dis à la fin, on reste entre nous et tout. Et eux, ils sont un peu mal à l'aise et en même temps, ils sont du coup obligés de reconnaître que oui, en effet, ils vivent eux-mêmes dans un entre-soi assez fort.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. Des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. » À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. froid.
Artistes comiques qui travaillent dans la variété ou la chanson, arrivés à un certain moment, on leur demande un peu des règles de vie, des messages. Et moi, je suis tout à fait opposé à ça. Ouais. Je ne me sens pas.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous vous engagez vraiment? Parce que j'ai l'impression que vous êtes une sorte de spectateur et qu'il n'y a pas de sujet qui vous motive.
Mais non, parce que j'ai l'impression que je m'engage dans la défense du spectateur. Et d'ailleurs, le spectateur, pas que spectateur, je ne crois pas que. J'aime pas le côté moutonnier, manipulation des gens. J'aime pas la façon qu'on a de les ranger dans des cases très vite, très tôt, par angoisse. Justement, l'avenir est dramatisé. Ils ont très peur de. On a très peur. Ils ont, moi aussi, tout le monde. J'ai un fils aussi, qui a 27 ans. Mais je crois pas que ce soit forcément une bonne chose. Je crois que la distance, c'est pas que les artistes, la distance avec les choses, le fait de ne pas rentrer dans tous les pièges proposés, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pièges dedans. Ça paraît des sujets dont on va débattre parce que c'est un problème de société, mais en fait c'est un piège, parce que il en sort pas forcément grand chose. C'est parfois des gens qui se valorisent simplement. Je trouve qu'il y a pas que les artistes qui font ça. Il y a, je sais pas, des gens aussi bien en ville qu'à la campagne, qui ont une façon de voir les choses avec une certaine distance, et j'aime bien ces gens-là. J'aime bien les détecteurs de conneries, voilà. Si, je me suis dit, tous les amis que j'ai, finalement, chacun d'eux avait toujours un grand nez, enfin ceux que j'ai gardés, ont un grand nez pour détecter les conneries. Et moi, j'admire ça. J'ai très peur du moment où toute une population pense la même chose, du moment où toute une population réagit de la même façon.
C'est Roland Topor en 1991 sur un plateau de télévision qui est notamment interviewé par des jeunes gens, parle avec vous de votre spectacle Chaton Violent. Peut-être une des choses que je retiens de cet archive dont la pensée prend plein de chemins, c'est l'idée qu'il y a des pièges. Et que parfois, s'exprimer sur certains sujets, c'est des pièges et qu'on le réalise après. Est-ce que ça vous est arrivé ?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression aussi d'être là pour montrer les pièges. Donc, je sais pas si j'y arrive. Sûrement, des gens pensent que moi-même, je suis totalement perdue pour la France et tombée dans un piège. Hein. C'est une histoire de point de vue aussi. Après, je pense qu'il faut faire attention à croire qu'il y a des choses qui ne sont pas politiques. C'est-à-dire que quand on monte sur scène, la façon dont on prend la parole, parce que on a une audience, elle est forcément politique. Et quand je dis politique, ça ne veut pas dire qu'on parle de politique. Mais je veux dire, un humoriste, comme il y en a plein hein, en ce moment, qui dit qu'il ne fait pas du tout de politique et tout ça, mais qui fait tout son spectacle, je ne le citerai pas parce qu'ils sont plusieurs, mais qui fait tout son spectacle sur des clichés de genre, c'est-à-dire, ah ouais, alors nous les mecs, enfin, c'est-à-dire ça c'est la grande culture hein, du stand-up français, où les mecs se décrivent comme des gros beaufs, balous, qui veulent juste jouer aux jeux vidéo et qui pensent qu'ils savent pas ranger de chaussettes, alors que les nanas, elles sont toutes comme ça, et elles sont complètement hystéro, elles veulent juste aller chez Zara. Bon, j'exagère, je force le trait, mais on n'est pas très loin de ça. Je veux dire, ces gens-là font de la politique. Ces gens-là renforcent des stéréotypes de genre. Finalement, on se rend compte quand on regarde le spectacle qu'au fond, bah le mec quand même, bon, il est un peu con, il est un peu beauf, mais allez, il est sympa. Alors que bon, bah la meuf, elle est quand même chiante, hein, allez. Donc c'est politique. C'est renforcer le sexisme, c'est participer au sexisme qui est partout. Et tout en disant que c'est inoffensif. Donc en fait, c'est pire pour moi, parce que justement, il y a absolument pas de désir de déconstruire, mais au contraire de renforcer des stéréotypes et de rassurer les gens. Et là, pour moi, là, c'est un piège, parce que c'est une forme d'humour qu'on connaît déjà. Et de toute façon, l'humour, ce que j'appelle l'humour dominant, c'est-à-dire que pratiquent beaucoup de gens, c'est-à-dire de se moquer, des PD, faire des blagues sur le sida, ils parlaient du sida. Faire des blagues sur les Roms, tout ça. Bon, en fait, ça va rassurer un certain public, ça va conforter plein de gens.
Pourquoi ça conforte, justement? Parce que ça dit qu'on peut rire de quelque chose sans agir dessus.
Parce que ça vient rassurer le racisme des gens, ça vient rassurer le sexisme des gens, en disant « Ouais, mais ça va, c'est pour rire. » Donc, c'est OK. Et puis, ça vient aussi leur dire « Vous êtes mieux que d'autres gens. » Donc votre vie a de la valeur. Moi, c'est ça que je lis, parce qu'au fond, on s'en prend tous plein la gueule. Et je veux dire, même évidemment qu'un mec blanc middle class, bah, il s'en prend aussi plein la gueule, hein, dans son travail, il s'en prend. Donc finalement, de se marrer des roms, bon, bah, ça le fait un peu souffler, quoi, parce que du coup, c'est un peu moins lui la victime.
Mais ça lui
quoi.
Permet aussi d'oublier la propre violence dont lui-même est victime.
Exactement. Mais c'est terrible parce que
ça aussi, c'est de la politique, parce que ça enlève une possibilité de prise de conscience.
Bah oui. Et puis de rébellion. Donc en fait, je pense qu'il faut faire attention à tous ceux qui nous disent moi je suis pas là pour parler de politique et tout ça, parce que je pense qu'il y a, enfin, c'est sur un spectacle entier d'une heure et demie, je doute qu'il y ait beaucoup de spectacles qui ne soient pas politiques. Et d'ailleurs, si je vous donne un exemple très différent et que j'aime énormément, qui est Zouk, quand Zouk fait, on va dire, on pourrait dire, c'est pas du tout politique, c'est complètement absurde, et c'est des personnages un
peut-être
peu fous.
Peut-être on replace une femme qui faisait...
Vas-y. Non,
mais vous d'abord.
Non, mais donc c'est une humoriste française très importante qui était souvent d'ailleurs elle-même hospitalisée, qui était très borderline et qui faisait des personnages complètement délirants et très justes aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'était pas déconnecté du réel, mais elle avait une perception étrange et très forte. Enfin, il faut regarder hein, sur YouTube des sketchs de Zouk. Ça a l'air entre guillemets pas politique puisque elle part dans des délires absolus, mais en réalité, elle questionne la norme. Elle questionne la norme, elle questionne la folie, et donc notre relation à la folie, notre propre folie, comment on peut devenir fou tous hein, finalement à un moment ou à un autre. Et donc, il me semble que c'est éminemment politique.
Mais alors, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on annule lorsqu'on dit à longueur d'interview « Non mais moi, je fais pas de politique », c'est comme combien de personnes interviewées ici ou là, des femmes ou des hommes qui disent « Non mais je suis pas féministe ». Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ?
Ben, on dit « Je veux pas que ça bouge, je veux pas que ça bouge et en fait, je suis la norme, donc c'est moi qu'il faut suivre ».
Lorsqu'on dit quelque chose, y compris quand on peut dire des choses qui sont susceptibles de faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'on annule la propre puissance de ce qu'on pourrait être en train de dire.
Ouais, tout à fait. Bah, parce que c'est se soumettre aussi à un ordre établi et pas vouloir prendre de risques aussi ou pas vouloir se mettre en danger. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que plein de gens pensent qu'ils sont normaux ou neutres juste parce qu'ils sont blancs et hétérosexuels. Alors qu'ils sont pas normaux ou neutres. Ils sont peut-être majoritaires ou en tout cas dominants dans une organisation sociale. Mais ils sont tous sauf neutres.
Qu'est-ce que ça produit de parler, alors même si vous avez dit que tout avait évolué, mais de tenir un spectacle comme ça pendant plusieurs années, une fois par semaine, dans un théâtre, de le faire, de le refaire, de le re-refaire, est-ce que ça vous permet de, je sais pas, approfondir votre compréhension? Est-ce que ça vous, je sais pas, qu'est-ce que ça produit?
Sur moi?
Ouais.
Je sais pas, moi je j'ai jamais pensé comme ça, moi je suis juste contente de jouer, de revenir avec ces sujets en permanence et de rencontrer les gens avec ce spectacle. Moi, ça me permet en effet d'y réfléchir aussi. Parfois, je réentends mon texte différemment selon ce que j'ai pu vivre ou là où j'ai bougé. Je me dis, ah tiens, c'est marrant quand j'ai écrit ça. Peut-être que voilà, aujourd'hui, je le vois un peu différemment ou je me dis, tiens, faut que je le retravaille en fait. Donc, c'est aussi ça qui est chouette quand on joue un texte qu'on a écrit, c'est qu'on peut le retravailler. Donc, je réécris pas toutes les semaines, c'est sûr, mais on va dire tous les 3-4 mois, souvent, il y a une nouvelle version qui arrive avec des choses immuables parce que qui sont atemporelles entre guillemets, surtout ces personnages à Marseille, à Montreuil, etc. qu'on voit la femme bourgeoise de ma jeunesse, etc. Mais avec des choses autour qui évoluent, donc ça me permet de continuer à être toujours en mouvement, en réflexion, quoi.
Parce que s'il y a un truc parce qu'il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est assez présent, parce que ça ouvre le spectacle et c'est assez présent au cœur du spectacle, c'est deux autres formes de mouvement, un jeune homme et une jeune femme qui partent de Paris pour aller à Marseille, avec des idées sur ce que c'est que la province, ce que c'est que l'expatriation marseillaise, première chose. Et deuxième chose, des Parisiens qui partent de Paris pour aller en banlieue parisienne. Ça bouge pas dans votre spectacle parce que c'est extrêmement présent dans la société encore?
Bah oui, et puis parce que voilà, moi ce mouvement-là je l'ai fait personnellement de partir vivre à Marseille quand j'avais 20 ans, donc ça fait 20 ans, et pour autant je vois encore aujourd'hui des Parisiens, hein, parfois des potes qui disent ouais, on n'en peut plus de Paris, on part à Marseille et tout, et je leur dis venez voir mon spectacle avant parce que franchement vous allez revenir à la queue entre les jambes, et franchement pour la plupart ils sont tous en train de revenir donc en effet je vois que c'est assez atemporel, en tout cas à une échelle, pas atemporel, n'exagérons rien, mais en tout cas sur notre génération. Et puis là, le mouvement de gentrification qui s'est abattu assez, avec beaucoup de violence sur Montreuil, puis Pantin, puis maintenant Aubervilliers. Enfin, je veux dire, bon, on peut juste peut-être changer le nom de la banlieue tous les deux ans, mais en réalité, ça continue, ça se propage, quoi.
Et alors, ça dit quoi? Parce que en effet, ça produit une certaine pensée de la province pour ce qui est de Marseille, mais pour ce qui est de la petite ceinture parisienne.
Bah, ça produit, en fait, bon, moi, en plus, c'est des sujets que je trouve vraiment intéressants. C'est-à-dire que, je les condamne pas. Moi, il faut savoir que j'aime tous mes personnages. Même si je suis vraiment dure avec eux, je les aime quand même et ils me touchent. Et moi, cette fille que je joue, qui part à Montreuil, qui trouve ça génial, la mixité sociale, et qui finalement, ne vit aucune mixité sociale puisqu'elle passe ses vacances.
Ni dans sa vie à elle d'adulte, ni dans la vie qu'elle propose à ses enfants, parce qu'elle va aussi peut-être les changer d'école.
Exactement.
À un moment donné.
Et elle va
certainement pas partir,
voilà,
en vacances avec ses copains.
Exactement.
Pas la même origine qu'elle.
Donc, du coup, en même temps, elle me touche parce qu'elle veut bien faire, parce qu'elle se dit que c'est chouette d'être avec des gens différents, d'être entre guillemets avec des pauvres. Elle ne le formulera jamais comme ça, mais avec des pauvres, avec des non-blancs et tout. Et en fait, c'est plus un décor. Et en réalité, une fois que son enfant s'est fait dépouiller 3 fois, 4 fois au collège, ou même en primaire, alors, a priori, elle va le mettre dans une école privée à Vincennes, qui est beaucoup plus bourgeois, ou dans le centre de Paris, et faire prendre le métro avec 3 changements à son gosse pour qu'il soit avec des bons profs. Et en même temps, moi, cette fille, et je dis cette fille parce qu'elle est multiple, hein, j'en connais plein, quand elle me parle et qu'elle me raconte son désespoir tant qu'elle avait son enfant dans le public et que c'était presque le seul blanc, qu'il y a des enfants qui parlent pas français, qu'il y a des profs absents, qu'ils apprennent pas bien et qu'il y a de la violence, qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, moi, j'ai pas d'enfant, hein, donc c'est facile de juger aussi. Après, voilà. Moi, je dis juste, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être reste à Paris, parce que là, finalement, tu vas faire monter le prix au mètre carré dans un endroit où il y a des gens qui, eux, sont vraiment plus précaires. Et puis, toi, tu y vas, mais tu n'y vas pas vraiment. Ou alors, si tu y vas, vraiment, mets ton gamin, enfin, accepte, tu vois, que ton gamin, il va se mélanger avec d'autres enfants. Oui, il va se heurter à des difficultés, mais ça l'enrichira aussi, ça le nourrira aussi. Moi, mes neveux, ils ont grandi porte de Bagnolet, et ma sœur, justement, elle a tenu vraiment, parce qu'en plus elle est prof et tout, donc c'est l'école publique, et ces gamins, ils ont été à l'école publique, donc peut-être ils ont pas eu le meilleur niveau, que peut-être ils auraient pu faire des meilleures études s'ils avaient été ailleurs, mais quelque part, moi, mon neveu qui a 14 ans me raconte que son pote qui est noir et qui est fils d'un chauffeur de Uber, mère alcoolique, enfin un tableau assez trash, et qui lui dit, mais de toute façon, toi, tu vas t'en sortir, parce que toi, ta famille, vous avez des livres, et parce que vous êtes blanc, etc. Quelque part, je me rends compte que mon neveu a 14 ans, il a compris des trucs que moi, j'ai mis 35 ans à comprendre. Et franchement, je me dis, ben, c'est vraiment une richesse, quoi. Et la conscience qu'ils ont, et même ses copains, ils ont un regard sur le monde qui est dur et tout, mais ils ont une acuité et une conscience des inégalités qui est, mais je pense qu'il peut aussi les sauver, entre guillemets, parce que du coup, ils peuvent lutter contre, puisqu'ils les identifient déjà. Bon, ben, c'est une richesse que les gamins qui sont à Henri IV, ils le comprendront peut-être jamais de toute leur vie.
Ou un peu plus tard.
Ou d'une manière très cynique, et différemment. Et ben, moi, je me dis, ben, ouais, c'est peut-être qu'il s'est fait dépouiller 3 fois au collège, mais maintenant, il a une intelligence à son âge qui, moi, vraiment m'impressionne et qui m'en rend très, très heureuse.
Vous allez travailler sur quoi pour terminer? Après Chaton Violent,
je vais faire un autre spectacle. Mais bon, là, j'ai encore des dates de Chaton Violent jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'en février 2019, a priori. Donc là, je reste concentrée. Et puis là, je vais commencer à travailler sur un nouveau projet qui est secret pour l'instant.
Donc, on ne saura pas. Ouais. Merci beaucoup, Océane Rosemary. Chaton Violent se joue donc encore au Théâtre des Béliers à Paris tous les dimanches jusqu'au 22 avril. Ensuite, on pourra vous voir en mai à Ivry, en octobre au Kremlin-Bicêtre, en octobre toujours à Saint-Barthélemy d'Anjou, à Guise, Firminy, Saint-Genis-Pouilly. Ça, c'est pour l'automne et l'hiver prochain. Et puis au Festival d'Avignon dans le Off du 6 au 20 juillet 2018. Parlez tant qui court, qu'est-ce qui vous fait rire à tous les coups?
Blanche Gardin.
Parlez tant qui court, qu'est-ce qui vous agace prodigieusement?
Emmanuel Macron.
Parlez tant qui court, quel livre garder ouvert?
Les Argonautes.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Célia Dufour, à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Alléos, Romain Debec de Lièvre, Corinne Amard m'aide à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.